Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
(88) 670-9098, le Spacecast qui est avec vous jusqu'à 22h. Je m'appelle Jean-Francis Blais. Face à moi, j'ai le violent Louis lui-même.
C'est moi!
Et le Canadien de Montréal est en action ce soir, Louis.
Oui,
on est entre actuellement entre la 2 et la 3. Et à Toronto même?
Oui.
C'est ça, c'est à Toronto.
Ouais.
2-2, la marque actuellement entre les Canadiens et les Maple Leafs. On vous tiendra au courant pendant la troisième période, bien évidemment. Mais avant, on va aller jaser avec un gars avec qui je me suis déjà entretenu. C'est un gars très, très, très intéressant qui a un métier qui est aussi intéressant qu'inhabituel, là, on va se le dire.
Ouais.
Chasseur d'épaves. Je n'ai pas beaucoup dans mon carnet de contact, honnêtement, des chasseurs d'épaves.
On n'a pas mal rien qu'un.
Celui-là, vous l'avez peut-être connu à l'époque où il a fait des émissions télé sur le Empress of Ireland, qui est une épave célèbre, justement, échouée au fond du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent étant particulièrement compliqué à pratiquer et encore plus à fouiller, ben ça amène son lot de défis. Et aussi, parlant de défis, je lisais des commentaires de Samuel qui expliquait qu'après justement les séries télé sur le Empress of Ireland, que c'était plus dur d'approcher des producteurs puis le vendre l'idée de faire des séries sur l'exploration justement du Saint-Laurent puis l'exploration, de chasser des épaves à TV. C'est plus tough vendre l'idée. Et il a eu l'idée de s'auto-financer, partir son Patreon et financer lui-même et produire son projet. Je salue ce genre d'initiative-là et on s'en va le rejoindre pour justement prendre de ses nouvelles. Samuel Côté est au bout du fil. Salut Samuel.
Salut les amis, ça va bien?
Ça va très bien toi-même?
Ben oui, ça va bien.
Excellent. Hey, parle-moi un petit peu, là, est-ce que tu as essuyé des refus après le Empress of Ireland, les séries que tu as faites sur le Empress of Ireland?
Moi, c'est plus, je te dirais, j'ai fait une série qui s'appelait Chasseur d'épaves à l'époque, qui a été diffusée sur Historia.
Ouais.
Après ça, j'ai eu une série, Les sombres secrets du Saint-Laurent. Après ça, Secrets des profondeurs. Puis là, je me suis fait dire par différents diffuseurs qu'on avait fait le tour de ce sujet-là. Moi, je savais que c'était complètement faux, mais je comprenais qu'il y avait une nouvelle vision. Ils font beaucoup plus d'acquisitions aussi au niveau des États-Unis ou du Canada anglais. Nos séries, ça coûte cher, des productions originales. Fait que je comprenais tout ça. Mais moi, il fallait que je trouve une façon de ressurgir puis de continuer à faire ce que j'aime,
ben oui.
C'est chasser les épaves.
Exact. Mais toi, c'est particulier, hein, parce que oui, tu chasses des épaves, mais tu plonges pas pour aller les voir. Est-ce que je me trompe?
C'est en plein, ça. Je plonge pas, mais je fais tout le reste. Je fais toutes les recherches en archives. Sur le terrain, je suis assez actif aussi. Des fois, il faut se repérer avec des photos d'époque. J'ai développé comme une expertise dans tout ça. Lire les images acoustiques aussi, qu'on voit avec des sondeurs multifaisceaux et tout ça. J'ai développé d'autres techniques, je porte d'autres chapeaux. Comme pour ma série, il fallait que je la produise, là je la monte, il fallait que je la réalise, je la scénarise. Mmh. Fait que c'est un travail d'équipe. Moi, les plongeurs, je ne ferais pas ce qu'ils font, puis ils ne feraient pas ce que je fais. Puis je suis très admiratif là, envers mes plongeurs.
Est-ce que tu l'as déjà essayé ou c'est... Je veux pas être indiscret, mais as-tu comme une peur de l'eau, c'est-tu ça? Ou bien c'est un manque de connaissances puis t'as juste comme trop de chapeaux pour te rajouter cette connaissance-là?
Quand j'ai commencé, j'avais pas trop de chapeaux, mais j'ai une crainte vis-à-vis, tu sais, je suis claustrophobe, puis tu sais, c'est pas fait pour du tout pour les claustrophobes,
ouais.
ce sport-là. T'sais, là, on arrive de Québec, on a passé une semaine là-bas, là. Les conditions étaient quand même assez extrêmes, puis la visibilité réduite. Fait que quand tu vois les images après ça qui sort de ces plongées-là, tu fais « OK, ça, c'est pas pour moi ». Puis, tu sais, j'ai tellement vu de plongeurs aussi qui ont vécu des situations des fois hasardeuses. Moi, je me suis dit « Je veux pas vivre ça ». Puis, c'est tout simplement comme ça que j'ai pris la décision, mais ça s'est fait tout ça.
Okay.
Et elle vient de où, cette passion-là pour les épaves de bateau? As-tu écouté Titanic quand t'étais jeune et t'es tombé dedans?
Titanic, là, j'étais quand même... J'avais 15-16 ans, facile. Ben, c'est je dirais que...
Fait que c'est la scène quand Jack, il peinture Rose tout nu, là, qui t'a plus marqué à cet âge-là.
Ah, ça, c'est sûr.
Oui, hein, on est tous pareils.
La main aussi dans la buée, là.
Oui!
J'avoue que, oui, ça m'a marqué. Mais c'est sûr que le film de Titanic, puis moi, j'ai l'impresse dans ma cour ici, mais c'est vraiment parce que mes parents, je suis allé familial à Grand Métis, puis je suis né les pieds dans l'eau, ça c'est tout près de Rimouski. Puis comme ça, j'ai commencé à m'imaginer comme des navires qui naviguaient à l'époque, des combats navals. Puis effectivement, moi, c'est, j'ai découvert qu'il y avait un bateau, le Carolus, ça va faire 83 ans demain, qui a été torpillé en 1942 par le sous-marin U-69 okay. Au large en face de la maison familiale, du chalet familial.
Ah, c'est donc bien hot, ça.
Ouais.
Comment est née ton idée? Parce que là, tu es en train de concevoir chasseurs d'épaves et compagnie. Comment, yes. comment est venue l'étincelle de dire, garde, eux autres, ils veulent pas le produire, mon show, je vais le faire moi-même. Est-ce que tu avais déjà à ce moment-là un Patreon?
J'avais pas un Patreon à ce moment-là, mais je pensais à ça, cette série-là, parce que j'ai suivi des refus. Puis là, je me disais, j'ai le choix de tirer à plug ou continuer, puis c'est ce que j'aime faire, puis bon, je me débrouille là-dedans. Fait que j'ai dit, OK, je continue, j'essaie. J'ai lancé le Patreon, c'était vraiment en parallèle. Ça, c'était pour continuer à avoir un petit revenu, mais en même temps, continuer à partager ma passion. Ça, c'est la première chose. Uh-huh. Puis après ça, là, j'ai dit, OK, là, je me lance dans la série. Fait que là, je suis allé chercher des partenaires privés. Puis c'est comme ça que j'en ai quelques-uns de la région de Québec. Puis là, j'ai parti comme ça. Puis j'ai fini le tournage il y a quelques jours. Puis je commence le montage. Puis je pense que les gens vont adorer la série. Premièrement, on a fait des découvertes, oui, mais des plongées incroyables à Québec en particulier. On est vraiment contents.
Là, parle-moi, l'essence de la série, c'est sur les épaves possiblement coulées lors de la Deuxième Guerre mondiale aux abords de la Gaspésie, c'est ça? Hein, parce qu'il y avait des canons qui attendaient les U-boats, entre autres, ou quoi que ce soit qui voulait tenter une incursion dans le Saint-Laurent. Est-ce que c'est essentiellement ça, le synopsis de la série?
Non, c'est vraiment, j'ai cinq sujets principaux.
Okay.
Puis il y a le filant du sous-marin en Gaspésie, puis le tout le complexe militaire, ça j'en parle évidemment dans un épisode. Mais là, j'ai fait un épisode sur le Lady Grey, brise-glace à son bras 55 en face de la baie de Beauport. Je fais un épisode sur les épaves explosives, donc des épaves qui ont été dynamitées pour différentes raisons. Donc on a exploré cinq sites. J'ai le pont de Québec. Je voulais avoir des images de la travée centrale. On avait des images des débris 1907, mais là, ce qu'on visait, nous autres, c'est la travée centrale de 1916. Puis j'ai fait aussi un autre épisode sur l'Impresse parce que je savais que j'avais du contenu, puis on a fait des nouvelles découvertes. Fait que ça, je suis vraiment content aussi.
Okay.
Fait que j'ai cinq sujets, mais il y en a un qui décline là avec les épaves explosives sur plusieurs sites.
OK. Ah, c'est donc bien hot, ça. Mais, mettons qu'on retourne en Gaspésie par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Moi, ça a toujours piqué ma curiosité. Est-ce qu'on sait bien ce qu'il y a dans l'eau ou il y a encore des découvertes à faire?
Bon, nous, on a trouvé cinq nouvelles épaves en 2015. Il y en avait déjà deux, trois autres connues, dont une seule qui peut être explorée par des plongeurs. Elle se retrouve dans la baie de Grande-Vallée en Gaspésie, le Frederick Collinson, qui a été torpillé en juillet 1942. Sinon, les autres, donc on a 16 qui ont été coulés en 1942. Je viens de dire qu'il y en a à peu près 8 de trouver. Donc, la moitié reste à découvrir. Sont très profonds. La plupart qu'on a trouvés sont extrêmement profonds. Seulement des robots sous-marins pour aller les visiter. Les 8 autres, j'aimerais ça les localiser un jour. C'est pas impossible, mais il faut vraiment beaucoup de financement. Moi, à l'époque, en 2015, j'avais été chercher un financement ici avec un organisme de Rimouski, puis on avait pu cartographier des endroits. Là. Ça serait possible, mais il faudrait beaucoup de sous. Mais ça, moi, c'est un pan de l'histoire qui est complètement méconnu au Québec puis qui devrait être plus connu. Tu sais.
Ben oui.
On a quand même plusieurs sous-marins qui ont fait incursion dans le Saint-Laurent puis qui ont fait plusieurs décès. Même, ils ont coulé des navires de guerre canadiens aussi. Là.
Pour trouver des épaves comme ça, c'est quoi vos moyens principaux? C'est-tu vraiment juste de se garrocher avec des sonores puis des outils technologiques ou vous checkez un peu l'histoire où il aurait pu se situer au moment où il a coulé? Comment vous regardez ça?
Bon, moi, je suis historien, fait que c'est sûr que je plonge dans les archives en partant. Tu peux pas t'en aller sur le fleuve avec uniquement dire, OK, on s'en va là, on pense qu'elle coulait là, puis on a un sondeur. C'est impossible. Les conditions ne le permettent pas non plus. Des fois, tu sais, dès qu'il y a un peu de vague, là, ça va altérer déjà, tu sais, la prise de données. Fait qu'il faut vraiment être très, très précis, là. Vous allez voir dans la série qui va sortir, pour une épave en particulier, là, il a fallu que je sois extrêmement précis. Puis, Colin, on est arrivé, puis il y avait des vestiges au fond de l'eau. Non, il faut vraiment aller en amont. Des fois, il y a des positions qui peuvent avoir été laissées dans des documents. Des fois, c'est imprécis, mais là tu raffines ça. Des fois, c'est différents témoignages de survivants. Là, tu colles les chats, tu fais à un moment donné, les trous se resserrent, puis OK, on y va. Et des fois aussi, c'est des épaves qui ont été localisées, que j'identifie, que personne n'a identifié au fil des ans. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que là, c'est c'est un peu le contraire. C'est, on va faire parler un peu l'épave au fond de l'eau, faire des mesures, on essaie de chercher des indices, puis après ça, moi, je vais en archive. Puis c'est comme ça qu'on identifie les épaves.
Généralement, là, l'épave, parce que tu sais, je m'imagine un fond aquatique, ça doit être particulièrement vaseux et mou et brasseux, ouais. Donc ça doit, avec le temps, s'enfoncer et se recouvrir de matière. Est-ce que vous devez creuser pour trouver de quoi ou bien vous débarquez? Parce que je m'imagine mal que ce soit comme d'un jeu vidéo, comme tu débarques, puis elle est là au complet, tu sais.
Voilà.
Ben, c'est surprenant, ça dépend des sites. Là, comme exemple, en Québec, là, c'est fond de vase, des grosses roches de temps en temps. Mais ici, à Rimouski, il y a des endroits où c'est vraiment un fond plus dur avec des grosses roches. Puis là, c'est... Mais ça dépend. Ça dépend aussi de l'époque. Ça dépend du matériel dans lequel le bateau a été construit. Il y a une épave en bois. Il y a de bonnes chances que s'il y a beaucoup de sédiments autour, l'eau va être recouverte en partie. Donc okay. Là, elle va être ensemble en partie. Mais il y en a d'autres que, à Québec, là, ça va tellement vite, le courant, là, il n'y a pas beaucoup de sable autour des épaves, je peux vous le confirmer, parce que c'est incroyable ce que c'est des épaves, puis ils sont très bien conservés parce qu'on est en eau douce. Oui, il y a beaucoup de moules zébrées, mais ils sont en eau douce. Donc à Québec, ils sont très bien conservés. Si on compare ailleurs en eau salée, là, c'est différent.
Je comprends que de naviguer le Saint-Laurent, c'est une job de pro. Est-ce que le plonger aussi, c'est réservé aux plongeurs expérimentés qui connaissent leur affaire?
Ça dépend des endroits, mais mettons les dernières plongées qu'on a faites, là. Moi, j'aurais pas voulu travailler d'autres plongeurs que ces deux-là, Lisanne et Francis Pouliot, Lisanne Deslandes, qui est une super caméraman. Il y en a d'autres qui sont capables de le faire là, au Québec. Mais je dirais que c'est vraiment c'est pas pour les plongeurs du dimanche, ça c'est sûr. Surtout les épaves. C'est que l'affaire là-dedans, c'est que des fois la visibilité est tellement mauvaise que les plongeurs descendent, ils peuvent rentrer dedans sans le savoir. Il y a de l'enchevêtrement. Au fil des ans, là, veux pas, là. Il y a des cordes, il y a des filets de pêcheurs, il y a plein de choses qui peuvent s'attacher à l'épave. Ça peut être dangereux pour les plongeurs.
Okay.
La faible visibilité, des fois, c'est la narcose. Donc là, au fond de l'eau, c'est comme si tu avais pris 2-3 martinis, tu deviens un peu comme dans la brume. Puis là, il faut que tu reprennes sur toi parce que tu as besoin de remonter à la surface. Les grandes profondeurs, fait que c'est pas fait pour tous les plongeurs. Puis malheureusement, des fois, il y en a qui essayent d'aller plus vite. Puis ça cause des accidents ou des décès.
Okay.
T'as parlé tantôt du filet à sous-marin, justement, là,
ouais.
En Gaspésie.
Ouais.
C'est quoi ça, le filet à sous-marin?
C'était quoi l'idée de départ?
Ouais. Hein?
Ben, c'est un filet anti-sous-marin, OK? On a installé le filet en sous-marin, puis c'était pas la seule place, mais Gaspé a été choisi comme un endroit stratégique au Canada, comme Halifax, comme Sydney, en Nouvelle-Écosse. Ils ont mis ce filet-là, c'est vraiment un gros, gros filet, là. Faut s'imaginer, là, c'est pas un filet de hockey, là.
C'est pas un screen de but vendu à 14 pièces au Canadian Tire, là.
Non. C'était vraiment des grosses mailles d'acier, OK? C'était chaîné. Ils mouillaient ça sur place. Puis après ça, avec des flotteurs à la surface, ils faisaient flotter ça. Puis ça pouvait mesurer des centaines de mètres. Ça, c'était pour fermer la baie de Gaspé au cas où des sous-marins allemands pourraient éventuellement en pénétrer dans la baie. Fait que ça les bloquait carrément. Puis, ce qu'ils devaient faire s'ils frappaient le filet, c'est de monter à surface. Monter à surface, ben là, t'avais des canons qui pointaient directement sur eux autres qui étaient prêts à les attaquer. Okay. Mais c'est pas arrivé dans la baie de Gaspé.
OK. Hey, si on... question comme éthique, si on veut, là, mais
ouais.
Si tu vas au fond de l'eau... Et un de tes plongeurs trouve quelque chose, je dis n'importe quoi, là. Vous allez au fond de l'eau, vous trouvez un U-boat, vous trouvez une médaille nazie, comme. Oh!
Trouve la perle noire puis le trésor de Jack Sparrow.
Ouais. mais ceux qui trouvent, est-ce qu'ils ont le droit de garder?
Pas au Québec. Au Québec, c'est interdit. On n'a pas le droit de prélever aucun artefact. Si je comprends, j'ai fait le tour des provinces avec ma série Secret des profondeurs, puis j'ai vu chaque endroit, c'est totalement différent. Les archéologues travaillent des fois beaucoup plus étroitement avec des chercheurs amateurs. Ici, là, je vais vous donner juste des exemples. Tu t'en vas demain matin avec ton fils sur la plage avec un détecteur de métal, tu commences à chercher. T'as pas le droit de faire ça. Non, c'est interdit. Tu t'en vas avec ton bateau pour sonder, pour essayer, dans le but de trouver les vestiges, c'est interdit. Parce qu'on n'a pas de permis. Les seules personnes qui peuvent avoir ces permis-là, c'est des archéologues subaquatiques. Nous, on peut pas en avoir. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de faire ça le plus possible dans les règles de l'art, mais c'est pas toujours facile parce que justement, on n'a pas le financement pour engager ces gens-là.
Mm-hmm.
Moi, j'ai travaillé souvent avec des archéologues subaquatiques, un en particulier parce qu'il faisait partie de mes séries. Mais sinon, on n'a pas le droit de prélever rien. si on compare à d'autres provinces comme la Nouvelle-Écosse, où à un certain moment, les gens pouvaient garder un pourcentage de ce qu'ils ramassaient puis donner l'autre pourcentage à la province.
Je sais que c'est dur pour toi, de, et même à l'inverse, ça serait dur pour eux de le prouver, mais est-ce que tu dois t'assurer d'un point de vue que tu n'endommages pas les vestiges que tu peux trouver? Je comprends que c'est dur aussi pour l'étang, de guillemets, de dire « Hey, t'as pété la coque, là, tu sais, mais... »
Ouais, ouais. Ben, le problème là-dedans, souvent, là, je vais prendre l'exemple du Lady Grey qui repose quand même à 145 pieds de profondeur. On n'a pas le choix d'arriver et de grappiner. Grappiner, là, c'est, on a un grappin. C'est un outil qu'on utilise, nous autres, on peut dire ça, c'est une grosse ancre, mais qui est fait vraiment pour s'ancrer dessus. Parce que si tu t'ancres pas sur l'épave, les plongeurs peuvent pas descendre, nous autres, au hasard, au fond de l'eau. Faut absolument qu'ils suivent une corde.
OK, ils descendent en rappel aquatique, si on veut, genre.
Okay. Ils ont pas le choix, parce que sinon, c'est extrêmement dangereux. Là. Tu sais pas ce que tu peux arriver, puis l'épave ne veut pas ce qu'elle fait aussi, ça protège des fois contre le courant. Donc, s'il y a trop de courant au fond, parce que la surface puis le fond, c'est différent. Il n'y a pas de courant surface, ils descendent, le courant est très fort en bas. Fait que s'ils peuvent avoir, on va dire, un abri artificiel qui est l'épave, ils vont aller se protéger là. Puis en même temps, tu vas avoir un lien avec l'épave aussi. Tu ne peux pas chercher à côté, c'est le but, c'est d'aller chercher l'épave.
Ben oui.
Fait que oui, tu peux endommager l'épave. C'est pas une science exacte, c'est assez aléatoire, on a des positions précises, mais puis les archéologues, il faudrait qu'ils fassent la même chose. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen que de faire ça dans le cas de ces épaves-là. Des épaves moins profondes, différent. Il y a d'autres techniques, mais là, nous, on n'a pas le choix avec ce courant-là. Puis à Québec, là, c'est incroyable comment ça a été. Je parle de ça parce que j'arrive de là, puis bon, vous êtes là-bas aussi. Mm-hmm. C'est tellement pas évident au niveau du courant, puis le vent aussi qui arrivait. On avait du trafic à cause de la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans. C'était vraiment c'était complexe, mais on a réussi, puis c'était vraiment le fun.
Des ossements humains, est-ce que ça se décompose rapidement dans l'eau? Pour revenir à ma question, si non, est-ce que vous en trouvez des fois dans les épaves?
Oui, oui, oui. La presse, là, je vais donner un exemple. On a tourné il y a à peu près un mois, puis encore là, on a vu dans les images un fémur.
Oui.
Sur la presse, là, il y a environ les restes de 150 à 700 corps. Sont restés au fond de l'eau parce que les scaphandriers n'ont pas pu récupérer tous les corps là, en 1914. Puis ben c'est là. Puis tu sais, des fois, il y a des regroupements d'ossements, des crânes, des rotules, je sais pas, moi je suis pas un spécialiste, là, mais j'ai entendu dire que ça, c'est un os qui pouvait résister un peu plus longtemps. Puis des fois, ben c'est ça, il y a des plongeurs qui me disaient, ben moi, je suis arrivé en bas d'escalier, puis il y avait plusieurs rotules. Fait que est-ce que c'est comme le Titanic, ils sont arrivés, eux autres, ils ont essayé de monter, puis ils ont resté pris là, puis ils n'ont pas pu monter un autre étage. Si je pense à ceux de troisième classe qui étaient dans le fond du bateau, eux autres, la plupart, tu sais, il y a beaucoup de décès. Là. Le pourcentage est assez élevé là, au niveau de la troisième classe. Mm-hmm. Fait que oui, pour répondre à ta question, des ossements, c'est dans nos salles ici, il y a encore ça. Puis on le sait des fois qu'on ça se peut qu'on en voit. Mais ça, c'est une question de respect, puis c'est ça. L'Empress, on le sait que c'est un lieu de sépulture.
OK. Hey, je lisais que vous allez avoir pour ta série des drones sous-marins.
Oui, bien, robot sous-marin, on a essayé de le sortir, ça n'a pas été facile. C'est jamais facile, un robot sous-marin. Fait que là, pour l'instant, on n'a pas pu faire d'image, mais c'est encore dans mes objectifs là, d'avoir un robot sous-marin. Il faut vraiment que les conditions soient idéales.
C'est ce que j'allais te demander, parce que j'imagine qu'un robot sous-marin d'un Caraïbe avec l'eau turquoise, OK, ben là. Mais là, ici, avec l'eau comme on la connaît, avoir des bonnes shots, disons que les conditions ne sont pas toutes regroupées. Là.
Non, vraiment pas. Puis c'est la même affaire des communications. Tu sais, on essaie tout le temps, je me rappelle, Chasseur des Pères, la première saison, là, on rêvait, nous autres, d'avoir des communications de la surface, dans le fond de l'eau, que je pouvais comme coordonner un peu les recherches en simultané, mais on l'essayait encore sur l'Empress, c'est vraiment pas facile, c'est pas évident, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, on n'entend pas beaucoup, c'est pas facile, là, tu sais, il va falloir que je vais toujours être sous-titré parce qu'on n'entend presque pas ce que le plongeur nous dit, mais tu sais, on n'est pas dans des conditions pour manœuvrer ce genre d'équipement-là, c'est dommage parce que c'est un plus-value quand même, là, c'est le fun. Mais oui, on n'est pas dans le sud, on est loin d'être dans le sud.
Ouais.
Tu parles, ben, dans un de tes épisodes, tu parles des bateaux, des épaves explosives.
Ouais.
C'est-tu un genre de terme que je comprends pas ou c'est vraiment des épaves qui risquent d'exploser en dessous de l'eau?
Bon, ça, il y en a encore, mais c'est un, ben, c'est pas un jeu de mots, mais c'est juste pour expliquer que ces épaves-là Ils ont été dynamités un jour ou l'autre, soit pour le plaisir, soit pour recouvrer des métaux précieux, ou parce que c'est des obstacles à navigation.
Okay.
Parce qu'à un certain moment, dans les années 70, t'allais à la quincaillerie, tu t'achetais de la dynamite. Puis tu n'avais pas besoin d'être bout de feu.
Le bon vieux temps.
Oui, c'est ça j'allais dire, le bon vieux temps.
C'est le bon vieux temps, puis les autres, ils manipulaient ça comme... C'est extrêmement dangereux. Là. Il y a eu, dans cet épisode-là, justement, je vais raconter qu'il y a un groupe de plongeurs qui ont passé à un cheveu de la mort là, parce qu'il l'épave avait à l'intérieur, dans ses entrailles, une quantité impressionnante de munitions. Puis eux autres, ils pensaient qu'ils avaient une petite quantité, mais ils ont été surpris quand ça a explosé.
Oh shit, quand même.
Ouais. C'est okay. Un beau saut.
Eh hey, bien, Samuel, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va évoluer. T'as-tu une date, là, je comprends que tu es en montage, mais t'as-tu ouais. un release date de prévu?
Ça serait l'automne prochain. Ça va être loin, dans un an. À moins, ça peut sortir avant, mais j'ai bien l'impression que ça va être l'automne prochain.
OK, ben garde, ça va nous donner une autre occasion pour se rejaser puis teaser ça un peu. D'ici là, est-ce que les gens... ton Patreon, c'est encore actif. J'imagine que tu as encore besoin de support, de soutien. Puis il y a des gens aussi. Tu sais, c'est pas juste une tape dans le dos. Puis vas-y, mon Samuel. Les gens ont un retour. Là, ils ont accès à ta passion. Qu'est-ce que comprend ton Patreon, les abonnements?
Ben, ce qui est le fun, c'est que moi, j'ai centralisé là, toutes mes anciennes séries. Tu n'as pas accès à nulle part. Je pense à Chasseur d'épave, il y avait 27 épisodes, Sombre secret du Saint-Laurent, mes trois documentaires Slam Press, j'ai ma série Brian Noble, le rebelle des mers, j'ai des balados, des textes. Ben, à chaque semaine, je fais des directs. Texto aussi, tout est accessible. Fait que c'est du contenu que tu trouves pas nulle part. Là. Souvent, les gens m'écrivent, on peut se retrouver tes vieilles séries. Ben, là, c'est là, ça se passe.
Ah, c'est cool, ça. Tu as gardé les droits, c'est cool. Là.
Fait que c'est vraiment le fun.
Yes. On tape quoi sur Patreon pour te trouver? C'est juste Samuel Côté, Chasseur d'épave, ou bien tu as un nickname ou un nom pour ton Patreon?
C'est Chasseur d'épave, tout simplement.
All right. Eh bien, Samuel, on te suit évidemment, puis c'est toujours fascinant de te parler. Un gros merci.
Merci à vous deux, vous êtes bien simple.
Hey, salut, bonne soirée.
Bye-bye.
Bye-bye. C'était Samuel Côté qui est, vous l'avez compris, chasseur d'épave et un gars franchement intéressant.
Très,
là,
très
hâte. Ah, vraiment, c'est fou. Hein. On a ça ici, là, le Press of Ireland avec 700 cadavres. Moi, c'est méchant. J'aurais jamais pensé à ça, les ossements. C'est bien trop vrai. Dans le fond, si ça coule, là, c'est rare que les gens font comme « OK, I'm out, bye-bye ».
Ouais, ça flotte pas, des os. En tout cas, peut-être que ça flotte, mais...
Ou en tout cas, des os pris dans une pièce... Dans la cale, ben ça flotte pas. Ça flotte, mais dans la pièce.
C'est vraiment bien vu.
Ça. Ouais. OK, hey, on continue à faire de la science dans la pause, puis on vous revient. Ça sera pas long.
Le Space Cast Radio X.